Viri Galilei, quidat miramini aspicientes in celum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Homme de Galilée, qu'admirez-vous en regardant le ciel? Nous venons d'entendre, il y a quelques instants, au début de l'introïte. Ce qu'est le ciel, tout le monde le sait. Le parfait bonheur, bonheur sans ombre et sans fin, privilège de ceux que la mort aura trouvés en état de grâce, la possession, la vision de Dieu, où celui-ci comble tous les désirs humains. Toute notre vie terrestre doit être orientée vers ce seul but. C'est vers le ciel que tendent tous nos efforts et tous nos désirs. D'ailleurs, désirer le ciel, c'est le fruit, c'est la grâce qu'on demande en récitant le deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur. Voyons donc d'abord qu'est-ce que ce désir du ciel, puis que nous disent là-dessus notre Seigneur, les apôtres, les martyrs et l'Église elle-même. Enfin, nous allons considérer le rôle de ce désir du ciel dans notre vie spirituelle. Désirer le ciel, qu'est-ce que c'est? Le désir, en général, est un mouvement de l'âme vers le bien absent. Voilà. J'ai une grande envie de manger des fraises, ce n'est pas encore la saison des fraises, il faut que je patiente un peu, mais je garde le désir. Le désir, non plus des fraises, mais du ciel, on peut le définir comme un acte de volonté qui, sous l'influence de la grâce, aspire sans cesse au ciel. Selon cette citation bien connue de saint Augustin, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur ne peut avoir de paix jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Voyons maintenant ce que nous disent au sujet du désir du ciel l'Écriture sainte, le martyrologe et la liturgie. D'abord, notre Seigneur. La pensée du ciel revient sans cesse dans sa prédication. Il utilise l'appât des récompenses célestes pour obtenir de ses disciples qu'ils pratiquent ses commandements. Celui qui les aura pratiqués et enseignés, dit-il, sera grand, grand dans le royaume des cieux. Par le même moyen, le Sauveur les encourage à la pureté d'intention. Gardez-vous, dit-il, de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Enfin, pour consoler les siens de son départ, leur divin maître découvre devant eux leur place au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place. Pour les apôtres, la pensée du ciel est un des stimulants les plus efficaces à l'exercice des vertus, l'un des meilleurs soutiens dans les épreuves. On va se limiter uniquement à saint Paul. Celui-ci presse ses chers Galates de ne pas se lasser de faire le bien. Ils moissonneront pendant l'éternité ce qu'ils auront semé dans la vie. Aux Thessaloniciens, il écrit que leur tribulation qu'ils ont à supporter avec les persécutions les rendront dignes du royaume de Dieu, pour lequel ils souffrent. Enfin, aux Romains, il écrit « J'estime que les souffrances du temps n'ont aucune proportion avec la gloire à venir. » Quand on lit les actes des martyrs, on est frappé de la place considérable qui y occupe la pensée du ciel, pensée qu'il est soutenu en face du supplice, en face de la mort. Le premier de tous, saint Étienne, s'écrie, pendant que les Juifs le lapident, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Seigneur, recevez mon âme. » On trouve le même désir du ciel chez saint Ignace d'Antioche. « Laissez-moi être la nourriture des bêtes, » écrit-il à ses frères de Rome, « bêtes par lesquelles il me sera donné de jouir de Dieu. Tombe sur moi tous les supplices du démon, pour vous, pourvu que je jouisse de Jésus-Christ. Faites-moi grâce, mes frères, ne me privez pas de la vraie vie. » Un autre exemple, plus proche de nous, le petit François de Fatima. Il aimait souvent à dire à Lucie et Jacinthe, « J'ai eu beaucoup de plaisir à voir l'ange, plus encore à voir Notre-Dame. Mais ce qui m'a plu davantage, c'est de voir Dieu dans cette grande lumière qu'elle, la Sainte Vierge, qu'elle nous a mise dans la poitrine. » Il se bien rappelait, ce petit François, ce moment où la Sainte Vierge, écartant les mains, les avait récompensés de leur générosité en leur donnant un avant-goût de la vision du ciel. Nous étions comme en feu, comme dans le feu, disait-il, dans cette lumière qui est Dieu, et nous ne brûlions pas. Comment est Dieu? Il est si beau, si bon, que nous ne pouvons le dire. Quand on le menaçait de mort, ce petit garçon de 9 ans, il répondait, « Tant mieux, s'il nous tue, nous irons plutôt au ciel. » Enfin, l'Église elle-même nous parle souvent du ciel dans sa liturgie. Juste deux exemples. Collecte du quatrième dimanche après Pâques. Que nos cœurs restent fixés là où se trouvent les vraies joies. Et collecte du cinquième dimanche après la Pentecôte. Ô Dieu, répandez dans nos cœurs la tendresse de votre amour, afin que nous obtenions un jour ces biens que vous nous avez promis et qui surpassent tous nos désirs. » Nous venons de voir ce qu'est ce désir du ciel, ce qu'en disent notre Seigneur avec ses apôtres, ses martyrs et son Église, considérant à la fin le rôle du désir du ciel dans notre vie spirituelle. Il est avant tout une source de force. Source de force d'abord dans les tentations. Plus on développe, plus on nourrit en soi-même le désir du ciel, plus sûrement on assure le triomphe de la volonté quand elle se trouve tiraillée entre le bien et le mal. Plus on a l'estime des biens célestes, plus les satisfactions du péché paraissent méprisables. Si l'on ne tend pas toujours en haut par le désir du ciel, le torrent de la concupiscence ne cessera d'entraîner toujours plus bas. Le désir du ciel nous aide dans les tentations. Il est aussi une source de force dans les épreuves. Le bon désir, d'un côté, donne des forces, disait un saint, et de l'autre, rend la peine, la croix, plus légère pour arriver au bout. Tandis que celui qui ne désire pas, il désespère d'y arriver, il ne fera jamais rien pour l'obtenir. Un homme placé devant une haute montagne, au sommet de laquelle il est sûr de trouver un trésor, doit avoir le désir d'y monter. Autrement, il ne fera pas le moindre effort, mais restera en bas, insouciant et inactif. Pareillement, sans le désir de posséder le trésor au ciel, on regarde comme impossible d'y parvenir. Un petit effort effraie. On demeure négligemment dans la tiédeur, sans avancer d'un pas. Ceux qui sont appelés au ciel, tandis qu'ils endurent les affronts, le mépris, la perte des biens ou la souffrance du corps, ils le trouvent lourde. Mais s'ils lèvent les yeux au ciel, tout ce qu'ils portent et supportent leur semble léger en comparaison de la récompense qui les attend. La voyante de Lourdes, Sainte Bernadette, dans sa dernière maladie, ne parlait que du ciel. Elle disait en soupirant, « Le ciel, on dit qu'il y a des saints qui n'y sont pas allés tout droit. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'avaient pas assez désiré. Ce ne sera pas mon cas. » Très bien, je désire maintenant un peu plus le ciel. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'entretenir, de développer en moi cette pensée si salutaire du ciel? Oui, il y en a même deux. Premièrement, la prière. Elle obtiendra de Dieu cette grâce. Deuxièmement, la méditation, ou au moins la lecture, mais fréquente, sur le ciel, mais aussi combien Dieu mérite d'être aimé, aimé éternellement. De quel amour il m'a aimé, amour crucifié, pour mendier un peu de mon amour. Que notre foi se réchauffe au souvenir des vérités qu'elle croit, écrit Saint Grégoire le Grand. Que nos désirs s'enflamment pour le ciel, que nulle adversité ne nous fasse oublier le bonheur éternel, que nulle prospérité ne nous en détourne pas par des flatteuses promesses, que notre esprit consacre tous ses désirs à soupirer après le ciel, qu'il ne s'attache à rien en ce bas monde où il faudra tout quitter et si tôt. Que la règne du ciel nous y aide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.